Et c'est sur notre générique No More Dreams de Nighter en licence libre que vous pouvez retrouver sur Dogmazic que nous entamons cette nouvelle émission de Monnaie Libre. Et cette semaine, nous recevons Yolan Bresson, économiste. Bonjour Yolan.
Bonjour.
Alors, on va rappeler quand même que tu as une carrière d'économiste. Tu as été longtemps professeur en faculté.
Et
tu as aussi travaillé alors sur le projet Concorde en France.
Oui, c'est exact, il y a longtemps.
Et je crois aussi donc que tu as été fondateur de l'association pour l'instauration du revenu d'existence en France, ainsi que un des fondateurs aussi du bien, le Basic Income Earth Network.
Tout à fait.
Alors, on est très heureux de t'avoir sur Monnaie Libre. On espère qu'on pourra t'avoir aussi souvent que possible. Et on voudrait avoir maintenant ton avis en 2012, là, juste après ces élections présidentielles en France et avant les législatives, sur l'état de la crise économique avant tout, qui évidemment préoccupe tout le monde.
Eh bien, je suis tout simplement atterré, comme un certain nombre d'économistes d'ailleurs, par le manque d'imagination de nos gouvernants et de nos élites. On semble nous enfermer dans une sorte de choix binaire, rigueur, austérité d'un côté, et puis croissance de l'autre. Mais alors, au-delà de la rigueur et de l'austérité, il y a aussi le désir de croissance des Allemands, mais à partir de changement de structure, retrouver de la compétitivité de l'économie européenne par rapport aux économies émergentes en particulier. Et de l'autre côté, dans la croissance, il y a essentiellement l'idée d'une relance de type keynésienne, mais à partir encore d'emprunt, tout simplement, soit à travers les eurobonds, soit à travers un endettement supplémentaire des europrojets, des grands travaux. Et donc on balance entre ces deux options en essayant de pseudo-compromis ou un pseudo-équilibre. Et pendant ce temps-là, évidemment, les peuples européens en particulier souffrent considérablement, alors qu'il y a bien d'autres solutions. Alors moi, je peux par exemple en donner quelques pistes. Donc, on dit par exemple actuellement, le choix c'est: est-ce que la Grèce doit sortir de l'euro ou y rester? Alors si elle y reste, c'est en se serrant la ceinture au maximum et en augmentant les souffrances du peuple. Si elle en sort, elle peut peut-être rétablir momentanément sa compétitivité en dévaluant le drag, mais c'est au prix de sacrifices énormes également des salariés, des retraités, des épargnants grecs. Voilà, on est entre Charybde et Scylla, quoi, c'est la peste et le choléra.
Oui.
Alors que il y aurait bien d'autres solutions, en particulier il y en a une qui me paraît tellement évidente, je comprends pas pourquoi elle ne s'applique pas. l'euro est actuellement une monnaie unique.
Oui.
On peut très bien en faire une monnaie commune déjà. Et donc une monnaie commune qui a vocation à représenter, à nourrir les échanges internationaux intra-européens et internationaux extra-européens, et on peut lui adjoindre dans chaque pays une monnaie complémentaire nationale. Par exemple, l'euro drachme, l'euro franc, l'euro lire, l'euro peseta, et cette monnaie nationale ayant cours légal obligatoire, c'est-à-dire à parité avec l'euro, mais ne pouvant servir qu'aux échanges nationaux et locaux.
Est-ce que c'est pas un peu on y reviendra tout à l'heure, mais est-ce que c'est pas finalement un peu la situation qui était en place un peu avant l'an 2000, avant l'instauration de l'euro?
Ah bien si, c'était d'une certaine façon un petit peu la même chose, mais avant c'était avec un degré moindre de lien, c'est-à-dire que il y avait les monnaies nationales et il y avait le serpent monétaire européen, il y avait l'écu, il y avait une monnaie de compte.
D'accord.
Européenne, mais là il y aurait vraiment on va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il y aurait des monnaies nationales, on va dans l'autre sens, complémentaires d'une monnaie européenne.
Bien sûr. Alors quelle autre solution tu préconiserais? Donc il y a cette première piste, on va y revenir, hein, on va rebalayer ces points parce que j'ai des questions à poser sur l'ensemble des points que tu as soulevés.
Oui, alors prenons ça. Deuxième option, par exemple, pour améliorer la compétitivité, on nous dit il faut réduire les charges sur les salaires des entreprises. Et par exemple, le gouvernement précédent proposait une TVA sociale.
Oui.
Bon, en soi, c'est une technique utile qui a été d'ailleurs utilisée par les Allemands pour transférer des charges et une imposition par la consommation. Bon, mais si au lieu de taxer les particuliers, on leur donnait des revenus supplémentaires, par exemple par un revenu d'existence, un revenu de base, même en monnaie nationale complémentaire,
oui.
Et que on substituait ainsi, on éliminait ainsi une part des allocations conditionnées de type allocation familiale, etc., donc qui sont nourries par des prélèvements sur les salaires. On aurait la même chose, le même phénomène, c'est-à-dire réduction des charges auprès des entreprises, compensée par un supplément de pouvoir d'achat aux particuliers plutôt qu'un prélèvement par la TVA. Donc, des choses aussi simples que celles-là, personne n'en parle, personne n'y pense. C'est dans cela que je suis totalement surpris et atterré.
Alors très bien, alors ça va nous ramener justement là au premier point que tu donnais, parce que finalement, est-ce que si ça, cette solution, bien sûr, alors on revient bien sûr au thème du revenu de base qui nous est cher ici sur Monnaie Libre, puisqu'on défend les monnaies libres et donc le choix des designs monétaires aussi, donc ça en fait partie. Mais finalement, est-ce que si ça n'apparaît pas, c'est parce que derrière, il y a aussi, tout simplement, il ne faut pas se voiler peut-être aussi la face, des enjeux de pouvoir et de contrôle. Donc, alors, ça peut être une option d'analyse. Mais alors, moi, je voulais revenir à ta première remarque, qui était le constat sur la crise, effectivement, qui sont des pseudo-solutions, ou par exemple, tu as parlé des eurobonds. Est-ce que finalement, en analysant profondément le système dans lequel on est, dire qu'on va passer à un système d'eurobonds, est-ce que c'est finalement pas reproduire à l'échelle supérieure, c'est-à-dire à l'échelle européenne, le même système pyramidal qu'on a mis en place préalablement au niveau des nations?
Ah bien, incontestablement, c'est rajouter de la dette à la dette, alors que ce soit à un étage où la mutualisation donne un moment le sentiment que le débiteur est plus solide, est un peu plus solide que les débiteurs partiels. Bon, ça va marcher un petit moment, mais c'est exactement le même principe. On continue simplement à ajouter une marche à une autre, et toujours dans le même mouvement. Alors, est-ce qu'il s'agit de maintenir un pouvoir sûrement, mais je crois que pour l'instant, c'est surtout une sorte de, comme on dirait, ils sont enfermés dans un logiciel unique en quelque sorte.
Oui.
Je crois que ils sont tous éduqués, formés, mentalement façonnés, enfermés dans une conception. Alors ils ont les rênes du pouvoir, la banque centrale, etc., et nos élites, et ils continuent à jouer le même jeu, tout simplement. Ils n'imaginent pas qu'on puisse jouer autrement. Mais quand on leur suggère de jouer autrement, alors ils balayent d'un revers de main en disant que ce sont des propos d'incompétents ou d'utopistes. Hein, ça, c'est la première réaction. La deuxième réaction, c'est quand ils commencent effectivement à voir que ils commencent d'ailleurs à s'en apercevoir, à voir qu'il y a peut-être là une ouverture. Alors là commence le sentiment, mais qu'est-ce que je perds du pouvoir,
oui,
j'ai sur les choses. Et effectivement, je crois que on touche à ce moment-là, on arrive au deuxième stade de l'opposition, c'est je refuse d'entrer dans un processus où je vais perdre progressivement le pouvoir que j'ai sur les citoyens, sur les gouvernés.
Oui, mais est-ce que ça, c'est pas le signe de leur très grande faiblesse intellectuelle, quoi, de s'accrocher comme ça à un pouvoir sur autrui? Enfin, ça me paraît, moi, d'une bassesse incommensurable.
Bah oui, mais je crois que c'est humain, quoi. C'est vrai, c'est à la fois le désir de maintenir des privilèges, parce que derrière, il y a quand même toute une série d'avantages et de privilèges que confère le pouvoir et confère la pseudo-autorité, que ce soit par l'élection ou par soit la nomination, que ce soit à la BCE, à Bruxelles ou ailleurs. Et puis les médias qui les entourent, tout le narcissisme que ça entraîne, c'est le goût du pouvoir, quoi. Alors c'est proprement humain, je crois que. Et là, à moins qu'il y ait à l'intérieur de cette oligarchie, parce que c'est bien ça, quoi. C'est l'oligarchie qui nous gouverne. À l'intérieur de cette oligarchie, des personnes, des personnages plus sages, plus intelligents, et qui mettent en cause de l'intérieur le système, il n'y a pas d'autre façon que de le renverser, quoi. Je crois que il semble que leur pouvoir vacille et qu'il vaut mieux anticiper et se mettre en accord avec les désirs des peuples, le désir du changement.
Oui, alors par rapport à ça, et pour en finir avec cette partie d'analyse des solutions qui tentent de se mettre en place par ces mêmes pouvoirs qui ont abouti à la situation actuelle, j'ai peur d'une chose, je vois quelque chose arriver, c'est qu'évidemment si on passe à l'échelle supérieure en commençant à mutualiser les dettes et à créer des eurobonds au niveau européen, je pense que le certain temps pour lequel ça peut durer, ça risque d'être des périodes suffisamment longues, de l'ordre de 20 ou 30 ans, comme le cycle précédent, qui fait que ben, finalement les gens vont se contenter de ce qui se passe, parce que pendant 10 ou 15 ans ça va bien se passer. Et qu'au final, on va pas résoudre par paresse un peu aussi, par paresse intellectuelle, on va pas résoudre le problème profond qui est lié au design de la monnaie elle-même et du système monétaire lui-même, parce que, le soulagement venant par cette nouvelle émission de monnaie qui va arriver, qui va, en plus, toujours pareil, avantager ceux qui vont en bénéficier en premier, parce que créer des eurobonds, des europrojets, ça va bénéficier à ceux qui vont être proches du pouvoir, encore une fois, et qui vont faire travailler les autres pendant que eux se permettent de créer la monnaie. Est-ce qu'on ne va pas risquer, finalement, s'endormir du fait de repousser comme ça la résolution du problème à la génération suivante, disons les mots tels qu'ils sont?
Ça peut arriver, mais ça ne me paraît pas probable. Pour une autre raison, c'est qu'on assiste quand même à une sorte de basculement planétaire. Le monde a été dominé par l'Occident et le Nord, le Nord occidental de la planète. Et on assiste à un basculement avec une tendance à une émergence très forte du Sud oriental. Hein, comme si la planète basculait à un inversement des pôles, en quelque sorte.
Ouais.
Le mouvement actuellement paraît assez... s'accélérer en quelque sorte, et donc lorsque les eurobonds et l'Europe se sera donné un peu d'air pendant quelque temps, ça ne changera pas fondamentalement l'évolution des choses dans la relation, dans la concurrence internationale et dans l'équilibre géo-économique mondial. Mmh. Et par conséquent, l'Europe sera toujours en situation de tension et de crise, de ralentissement économique, de perte de pouvoir d'achat et de capacité d'influence dans le monde sous la pression du Sud. Elle n'a de, l'Europe et le Nord-Occident n'a de possibilité de s'arrimer vraiment, de s'accrocher à, et de d'harmoniser l'évolution du monde, que si il change radicalement son modèle. Et donc la pression, moi je crois que la pression doit être maintenue pour qu'elle change de modèle et qu'elle donne un nouveau modèle exemplaire. Parce qu'en réalité, sa perte d'influence aujourd'hui, c'est parce que le Sud oriental applique beaucoup plus efficacement,
oui,
le modèle qui a enrichi jusqu'à présent le Nord.
Oui, parce qu'ils l'ont pris en dernier, donc ils l'ont utilisé au maximum de son efficacité. Au final, c'est toujours pareil, les derniers arrivants à utiliser un système, en général, prennent le meilleur.
Mais voilà, tout à fait.
C'est
tout
comme l'informatique.
Ils ont un avantage comparatif là, incontestable. Et donc, si on se maintient dans ce cadre, dans ce modèle salarial traditionnel, capitaliste salarial, tel qu'il est, avec le système bancaire, monétaire tel qu'il est, eh bien, le Sud oriental va submerger assez rapidement le nord occidental et donc l'appauvrissement relatif va être considérablement ressenti en Europe.
Oui, alors que c'est extrêmement dommage puisqu'on est quand même 330 millions de citoyens en Europe, tous capables d'innover, tous capables de créer, tous capables de produire. On a quand même des ressources considérables en Europe malgré tout ce qu'on peut dire. On a des ressources minérales, on a des ressources naturelles, on a beaucoup de forêts, on a beaucoup de choses, on pourrait faire énormément de choses. Et simplement, encore faut-il libérer la croissance réelle, c'est-à-dire non pas la croissance qui bénéficie aux quelques-uns qui voudraient contrôler tout, mais la croissance qui bénéficierait à tous et qui serait portée par chacun.
Eh ben c'est simple, on est enfermé dans un carcan, dans un corset, qui est le système qui a eu ses mérites un temps, hein, mais qui est complètement à bout de souffle, qui nous étouffe, et on n'arrive pas à le casser. On n'arrive pas à le casser parce qu'à la marge, ceux qui contrôlent ce système, qui le gèrent, eh bien, en profitent suffisamment pour ne pas, eux, se sentir obligés de participer à la transformation radicale du système.
Ouais, jusqu'au jour, ils vont se faire couper la tête, comme ça s'est fait auparavant.
Ah, oui. Ça peut arriver, oui.
C'est le risque. Alors, on va revenir aux deux solutions que tu préconises, bon, qui sont quand même, il faut creuser. Alors, tu fais la distinguo, donc, effectivement, entre monnaie unique, monnaie commune. J'ai envie de dire que on peut avoir des exemples de cette possibilité-là, tout simplement, peut-être, en Suisse, puisqu'en Suisse existe maintenant depuis presque 80 ans, d'ailleurs ils en parlent peu, et c'est peut-être pas par hasard, mais une sorte de monnaie commune qui est le franc suisse, et puis il y a quand même au moins, et ça, il y en a peut-être d'autres, mais il y a au moins une monnaie, je dirais, qui concerne un nombre d'acteurs limité, qui s'appelle le WIR.
Oui,
et qui lui sert à l'échange de, je crois, ils sont maintenant 50 000 entreprises, quand même, bon, c'est, ça compte.
Oui.
Mais voilà, on a un double système, comme ça, finalement, on a un système double monétaire, j'ai presque envie de dire, même historiquement, qu'il y avait à un moment donné le bimétallisme, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois la monnaie or et la monnaie argent.
Bien sûr.
Donc est-ce que là, effectivement, il n'y a pas...
C'est de là qu'est venue la fameuse loi de Gresham, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Il y avait la monnaie d'or et la monnaie d'argent.
Oui.
Et comme l'or, on avait plus confiance dans l'or que l'or était, donc l'or était épargné par les plus riches.
Ouais, ouais, ouais.
Et l'argent circulait plus facilement, donc on se débarrassait de l'argent et on gardait l'or. Et donc finalement, c'est pour ça que l'argent est devenu la monnaie du pauvre en quelque sorte.
Ouais, ouais.
Et l'or, la monnaie des riches. Mais on aurait un bimonétarisme avec l'euro et une monnaie nationale. L'euro franc par exemple, l'euro franc circulerait, les gens achèteraient en euro franc et épargneraient en euros. Et d'ailleurs, on pourrait imposer qu'on ne puisse pas acheter des biens capitaux, donc par exemple l'immobilier, des actions, des obligations, avec l'euro franc, que ça se soit obligatoirement en euros.
Oui, mais il y aura toujours là un moyen de finalement d'échanger ces euros francs en euros, puis de faire l'achat voulu.
Mais l'important, c'est que il y a deux choses qui sont importantes. Il y a d'une part, ça permettrait de résoudre un peu le problème sorti ou pas de le tout ou rien qu'on impose par exemple qu'on imagine pour la Grèce.
Ouais.
Mais d'autre part, c'est là où je trouve que ce serait plus important, c'est qu'à partir du moment où l'État retrouve la souveraineté de création d'une monnaie nationale, hors BCE, par l'intermédiaire de sa propre banque nationale, il peut commencer à distribuer de la monnaie directement à des particuliers sous forme de revenus d'existence ou revenus de base, et donc remettre le principe de création monétaire sur sa tête, en quelque sorte, la remettre sur ses pieds, plus exactement.
Oui, tout à fait.
Et non pas de continuer à créer de la monnaie par l'endettement à travers les banques.
Exactement. Donc là, on arrive à la troisième. Donc, on voit bien que la monnaie unique, monnaie commune, c'est une question, là, tout de suite, effectivement, de contrôle du système monétaire. Et là, on en vient à cette troisième solution qui, évidemment, est peut-être la plus profonde, qui est le changement du design monétaire avec ce profond changement de paradigme qui consiste dans le revenu de base, où il y a au moins une part donc de la création monétaire qui se fait sur la base des citoyens, du fait de leur propre existence, et donc de leur, du fait qu'ils portent eux-mêmes la valeur qui les constitue.
C'est exact. C'est-à-dire, l'optimum, ce serait que la BCE, par une sorte de révélation, se dise, mais maintenant, au lieu de donner de l'argent aux banques, je vais donner cet argent à tous les citoyens européens.
Ouais.
Et les citoyens européens reçoivent cet argent sous forme de revenus d'existence, et puis eh ben, ils l'apporteront à leurs banques. Et ça fera des dépôts aux banques, mais seulement, eux, ils auront reçu cet argent gratuitement, et ils le donneront aux banques, et puis les banques prêteront à partir de là, alors qu'actuellement, elles donnent aux banques à un taux d'intérêt très faible,
oui.
Et les banques reprêtent à des particuliers à des taux d'intérêt plus élevés.
Ben oui, c'est le système pyramidal.
c'est
voilà, le principe.
C'est complètement absurde, finalement, surtout compte tenu du fait qu'on a besoin de nourrir de l'activité nouvelle, ramifiée, inattendue, créative, dans tout le réseau, dans toute la de tissu, le corps social européen.
Oui, mais Yolande, c'est absurde d'un point de vue d'économiste, je dirais, détaché, d'un point de vue d'économiste qui cherche la croissance la meilleure pour tous, mais ça n'est pas absurde d'un point de vue d'un économiste qui cherche la meilleure croissance pour un centre de décision.
Absolument, et qui cherche le profit. Alors les banquiers cherchant le profit à court terme, la banque centrale cherchant à améliorer son bilan, etc. quoi.
Ouais, mais alors c'est plus du véritable profit, ça. C'est du contrôle, c'est du pouvoir.
Oui, absolument. Ouais. Absolument.
D'accord. Et alors, dernière peut-être une autre option sur laquelle tu pourrais nous donner ton avis. Alors nous ici, évidemment sur Monnaie Libre, on parle aussi, on va parler des monnaies alternatives qui sont déconnectées aussi du pouvoir souverain, ou qui tentent de le faire en tout cas, comme par exemple, bien sûr, il y a le Bitcoin, il y a d'autres projets comme Ripple, comme OpenUDC, donc des monnaies qui sont possibles aujourd'hui via l'apparition d'Internet et de l'interconnexion de milliers de développeurs et de gens qui se forment et qui s'auto-forment à l'économie, à la monnaie, bon, qui ont aussi existé dans le passé avec les systèmes d'échange locaux de façon plus générale. Il existe en Allemagne le Schimgoer. On voit qu'en France, il y a aussi une explosion, ou en tout cas une tentative d'explosion des monnaies locales. On a entendu parler de l'Abeille du Lot, il y a le Piaf à Paris, il y a le Sol aussi qui fait son émergence. Donc il y a aussi la tentative de ne pas attendre que l'État prenne ses responsabilités. Mais il semblerait qu'il y ait des tentatives de collectifs de citoyens de se réapproprier l'outil monétaire pour eux-mêmes en créant des monnaies et des designs monétaires nouveaux.
Oui.
Alors je voudrais ton avis là-dessus. Est-ce que cette tendance va perdurer? Est-ce qu'on peut voir apparaître une monnaie gagnante par ce biais-là? Ou est-ce que, in fine, l'État souverain n'aura pas le dernier mot là-dessus? Enfin, je sais. Comment tu perçois ça?
Le problème, l'avenir de ce type de monnaie, c'est toujours la taille de la communauté d'acceptation de paiement.
Oui.
Alors, quand il s'agit de monnaie locale, localisée, la communauté d'acceptation de paiement est très limitée. Par conséquent, elle ne peut pas déborder, en quelque sorte, au-delà de sa frontière.
Oui.
Quand il s'agit d'Internet, on peut imaginer que, compte tenu de la dimension d'Internet, la communauté de paiement s'élargisse suffisamment.
Oui.
Pour qu'elle puisse effectivement participer réellement à avoir une sorte de capacité concurrentielle de la monnaie légale. Mais il restera toujours, à un moment donné, la vraie question, c'est que la monnaie n'est qu'un substitut de temps.
Mmh.
Et donc, il faut que la monnaie soit capable de conserver le temps. Et donc, tout l'important pour qu'une monnaie devienne vraiment monnaie, pas simplement échange instantané,
oui.
Pour qu'une monnaie devienne vraiment monnaie, il faut que les individus soient en mesure, à partir de cette monnaie, de retrouver le temps présent dans le futur.
Oui, ou en tout cas une partie.
Ou une partie, en tout cas, même en en perdant un petit peu.
Voilà.
Bon. Mais, et donc, c'est cet aspect-là qui est le plus important dans la monnaie, c'est sa capacité à conserver la valeur du temps.
Voilà.
Et là, tant qu'on n'est pas, on n'a pas cette garantie, on peut avoir une monnaie d'échange, de troc, mais pour qu'elle devienne vraiment totalement monnaie, avec toutes les caractéristiques de la monnaie, il faut trouver l'élément qui lui permet de conserver sa valeur dans le temps. Alors, pour ce qui est d'Internet, de la monnaie électronique, etc., c'est où sera l'endroit où on pourra capitaliser du temps. C'est-à-dire mettre de la monnaie en réserve représentant du temps d'aujourd'hui pour qu'il réapparaisse demain. Et tant qu'on n'a pas trouvé ce mécanisme, ça me paraît difficile.
Oui, alors je crois que depuis l'histoire de l'humanité, cette équation n'a pas été vraiment résolue, parce que sinon on la connaîtrait, cette monnaie qui garde, complètement
non, toutes les monnaies qui circulent, l'ont gardé, par exemple, depuis les coris. Donc pourquoi on a choisi des coris et des coquillages, justement, c'était parce que parmi les, c'était multiple, ils pouvaient être divisibles, donc capables de numérer, de dénombrer les choses, donc oui. De s'adapter à toutes sortes de valeurs, de prix élevés ou faibles, mais en même temps, le coquillage est resté permanent et conservé de la valeur. Pourquoi ensuite c'est plutôt l'or, parce que l'or conservait sa valeur parce qu'il était là en permanence et il ne se détruisait pas. Et donc ensuite, il a fallu effectivement qu'il y ait de la confiance. Hein, que la confiance intervienne et que on dit bon ben la monnaie va conserver de la valeur, mais elle était toujours rattachée à de l'or dans un premier temps. Donc on a commencé à avoir de la confiance dans la réserve de valeur de la monnaie tant qu'elle était rattachée à l'or. Et ce n'est que beaucoup plus tard, maintenant, donc on est parvenu à nous libérer de ce lien physique, pour dire, ben non, l'essentiel, c'est que nous soyons tous d'accord pour dire que la monnaie garde de sa valeur, en perd un peu, mais que nous donnions tous la valeur dans le temps, en conservant la valeur dans le temps.
Oui, donc
La vraie question qui est posée aujourd'hui, c'est quelle est la monnaie. Alors, il y a le dollar, l'euro, à un moment donné, quelles sont les monnaies qui sont suffisamment crédibles comme capables de conserver leur valeur dans le temps. Et alors, quand aucune des monnaies ne satisfait ce sentiment de confiance généralisée, on voit réapparaître l'or comme monnaie de substitution, de réserve de valeur. Mais on voit aussi réapparaître des biens capitaux comme réserve de valeur, des l'art comme réserve de valeur, etc. Donc, le mécanisme a toujours existé. Alors, ce qui se passe là, si on prend par exemple une monnaie purement électronique, c'est ce problème-là qu'il va falloir trouver. Bon, il peut y avoir la confiance généralisée, puisqu'on a progressé collectivement sur ce plan, mais comment cette monnaie électronique garde de la valeur? Qui gère dans le réseau électronique cette capacité de réserve de valeur?
Alors, je crois que pour les monnaies électroniques, c'est simplement ce qui va générer la confiance et le fait que la valeur est donc acquise par les utilisateurs de la monnaie, c'est justement le design de la monnaie. C'est-à-dire que ce qui fait l'importance des monnaies, par exemple Bitcoin, ce qui fait le fondement de Bitcoin, c'est avant toute chose, c'est le fait que son code, le code de sa génération est libre. Donc, ça veut dire qu'il est ouvert. Donc, tout le monde peut vérifier comment cette monnaie est créée, comment elle est échangée, etc. Donc on sait pour le Bitcoin comment tout cela est fait, et c'est cela qui génère la confiance. On sait que ça ne peut pas déborder. Donc après, c'est un accord, bien sûr, mais comme toute chose, parce que tu parlais de l'or, de l'art, etc.
Comment on garantit que cet accord persiste dans le temps?
Ah, mais on peut jamais s'en garantir. Même l'or, on peut très bien refuser l'or pour être payé. Je veux dire, il n'y a aucune garantie de quoi que ce soit, nulle part. On peut jamais être certain que autrui continuera d'accepter même un accord qu'il a déjà signé d'ailleurs auparavant.
Oui, bien sûr.
Je crois que l'accord ne
compte. Mais compte tenu de ça, il faut trouver un moyen, un lien qui raffermisse cette garantie. Par exemple, de dire que au bout d'un certain temps de détention de cette monnaie électronique, il y a un lien avec, par exemple, une réserve de valeur matériel, par exemple. Bon, ce serait peut-être un peu dommage, mais enfin bon, au moins pendant un certain temps.
Oui, mais sur cette base-là, c'est si l'ensemble des utilisateurs, je crois que là, le paradigme est différent, parce que justement, comme ça vient d'Internet, il y a plutôt une culture d'immatériel qui prime.
Oui, oui.
Il me semble, et c'est comme ça que ça fonctionne, déjà Bitcoin, de toute façon, a déjà un taux de change, donc on peut pas dire qu'il a pas de valeur. Après, ce taux de change, il fluctue comme toute monnaie. Je veux dire, il est en train de fluctuer, il fluctue à la hausse, à la baisse, il fluctue. Mais il a déjà un taux de change. Ce qui en fait sa valeur, c'est l'accord que toute la communauté des gens qui l'utilisent est d'accord pour l'accepter. Et c'est ça qui en fait la valeur. C'est-à-dire qu'on est à peu près sûr que dans un mois, vu qu'il y a déjà actuellement, il y a, je vais dire n'importe quoi, mais il y a 100 000 utilisateurs de Bitcoin qui sont, durs comme fer, acceptent d'utiliser les Bitcoins à la fois pour acheter et pour aussi payer, enfin donc pour les pour être payé aussi, enfin donc ils acceptent des bitcoins en échange de leurs services, ils vont accepter de fournir, alors peut-être justement sur la base dématérialisée, plutôt justement du temps comme tu le disais, donc du temps de travail par exemple. Donc un développeur informatique va accepter par exemple de donner un ou deux jours de travail dans son mois en échange de bitcoin, le reste il va continuer peut-être encore à utiliser l'autre monnaie parce que c'est pas encore totalement basculé en Bitcoin suffisamment, justement comme tu disais, c'est pas encore suffisamment vaste.
Oui.
Mais à partir de là, comme il accepte de donner deux jours de son temps par mois à qui veut bien le payer en Bitcoin, il sait que les Bitcoins sont limités, ou que leur vitesse de création est limitée, peu importe, et donc il sait que de toute façon, si il thésaurise en Bitcoin, à un moment donné, autrui pourra pas le payer indéfiniment en créant de la monnaie. Donc il saura qu'à un moment donné, si autrui veut continuer à travailler avec lui, il faudra qu'il accepte lui-même d'être payé aussi en Bitcoin. Donc en fait, ça
oui,
se fait comme ça. Donc
ça veut dire simplement, si tu veux, qu'il faudra élargir la communauté d'acceptation de paiement au maximum d'internautes sur la planète.
Tout à fait. C'est-à-dire que je pense aussi qu'il ne faut pas oublier un aspect, c'est que, comme tu le dis, bien sûr, la monnaie représente en essence même une quantité de temps humain, j'ai même envie de dire, plus précisément, de homme fois temps. Et en deuxième ordre, je crois aussi que la qualité qui fait d'une monnaie qu'elle devient une monnaie ou qu'elle est une monnaie, c'est aussi, et c'est très important aussi, c'est l'espace, c'est-à-dire son universalité, c'est-à-dire le fait effectivement que la communauté qui l'utilise est la plus vaste possible. Sinon, on est dans le troc.
Absolument.
Voilà. Donc, ce qui est pénible avec Yolande, c'est qu'on est toujours d'accord. Hein, donc...
En tout cas, ça prouve qu'on a des possibilités de sortir de cet enfermement dans lequel on nous a mis, quoi. Il y a vraiment, c'est dans cela que, pour terminer, je suis vraiment atterré, parce que il y a vraiment tellement d'intelligence et de capacité créative sur cette planète, et on nous enferme dans des modèles complètement dépassés.
Oui. Alors dernier point peut-être pour faire un point positif pour finir. On est quand même entre deux élections en France, les élections législatives qui arrivent. Je suppose que tu as suivi de près l'évolution forte et puissante des partis pirates un peu partout en Europe, et notamment du fait que le parti pirate allemand lui-même propose inscrit officiellement dans son programme officiel le revenu de base, le Grundeinkommen. D'ailleurs, le revenu de base aussi tend à être le terme, disons, le plus universel, basic income, Grundeinkommen, renta básica en espagnol. Maintenant, bon, je pense qu'en France, on ferait bien d'utiliser le revenu de base comme nom générique de ce fait-là. Et donc, cette progression des partis pirates, et puis peut-être, dernier point, peut-être que tu peux nous donner des informations, des news sur... Il y a un site en France qui va apparaître qui s'appelle revenudebase.info aussi.
Ah oui, donc d'une part, je suis tout à fait d'accord, je suis effectivement l'évolution du parti pirate et de ses succès, et finalement, encore que il semble que à l'intérieur même du parti pirate, ils ne soient pas tous très au fait du projet de revenu de base, et qu'il y a une sorte de pédagogie interne en Allemagne qui doit être menée. Et il va y avoir, on va déposer collectivement en Europe, auprès de la Commission économique européenne, une demande d'initiative citoyenne européenne pour que la Commission européenne ouvre un débat sur le sujet. Et donc, si la Commission européenne accepte notre demande, nous aurons un an pour recueillir dans toute l'Europe 1 million de signatures, et en France 55 000 signatures de soutien, pour que la Commission économique européenne s'empare du sujet. Donc là nous progressons de ce côté-là. Et je dois dire que tout à l'heure, ça ne m'est pas venu, mais quand on parlait de monnaie complémentaire, je dois dire qu'à Nantes, ministre Hérault, qui est maire de Nantes, a lui-même mis en route une monnaie complémentaire à Nantes.
Il s'appelle comment ?
Il devrait être sensible à ce genre de sujet. Donc c'est peut-être quelque chose d'un peu positif s'il ne s'enferme pas lui-même dans les mécanismes trop traditionnels. Et donc je pense que l'année qui vient, surtout compte tenu des tensions, l'idée du revenu de base devrait pouvoir se généraliser, se développer et enfin atteindre l'opinion publique, parce que les grands médias et l'opinion publique, parce que notre problème il est là, c'est que l'opinion publique n'est pas informée par les médias de cette ouverture possible. Ouais. On a bien parlé de distribution, de redistribution des richesses ou de changement dans la distribution des richesses un tout petit peu dans la campagne électorale avec Mélenchon, mais en réalité le problème fondamental il est là, c'est comment on distribue la richesse et comment on la répartit, comment on la donne, comment on distribue cet argent, quoi, puisque c'est la monnaie. Et c'est le cœur de notre sujet et apparemment on ne l'aborde pas vraiment.
Oui, on ne l'aborde pas, c'est certain. Comment s'appelle cette monnaie à... Mais j'ai envie de... Oui, alors, juste pour dire...
C'est le Nando, qui l'appelle sa monnaie.
D'accord, Nando Nando.
C'est donc monnaie locale, normale, comme le vire. Hein. Il est sur l'exemple du vire, à ceci près que le responsable de la mairie qui s'occupe de cette monnaie, de la diffusion, qui est déjà commencée, veut aussi... le vire s'occupe simplement des entreprises en Suisse, et donc là, il veut l'étendre à des particuliers.
D'accord. Mais les médias, finalement, Yolan, c'est nous ?
Oh, j'en suis pas si sûr, parce que c'est ce qu'on dit, mais moi je ne le crois pas. Je crois que sur tous les domaines où effectivement c'est le peuple qui c'est nous, nous qui sommes l'État, c'est nous qui sommes tout, il y a l'oligarchie qui confisque la parole et qui confisque les leviers. Et je crois que les médias, c'est nous, c'est vrai, mais il y a une oligarchie médiatique qui est la même, d'ailleurs, que l'oligarchie gouvernementale. C'est ce qu'on appelait, c'est la cour, quoi. Bon, c'est plus Versailles localisé, mais c'est un peu la même chose. Et donc, qui tient tous les leviers. Et je crois que nous croyons, nous, être les médias, mais non, ils se servent de nous parce qu'ils ont besoin, en termes de concurrence économique, de l'audimat pour la pub, etc. Mais et pour cela, ils ont besoin de flatter les plus bas instincts, d'aller non pas dans la discussion, dans la réflexion, dans la raison, mais dans les sentiments et dans l'impulsion, etc. Donc ils jouent avec nous, quoi, d'une certaine façon.
Mais est-ce qu'avec Internet, cette règle du jeu n'est pas en train de changer, justement ? On a vu Wikileaks, on a vu tout un tas quand même d'émergences.
Je crois qu'Internet peut effectivement bousculer un peu les pouvoirs et l'équilibre qu'ils ont. Mais attention que Internet ne soit qu'une oligarchie, ne se mette pas aussi à s'accaparer Internet.
Oui,
une sorte de pseudopode qu'enverrait l'oligarchie pour capter Internet.
Oui, mais c'est plus difficile, il faut beaucoup réfléchir et c'est pas forcément la
partie. Ah oui, mais il faut se méfier quand même, hein. Je crois que c'est toujours possible.
Oui, c'est bien sûr, c'est toujours possible. On a vu d'ailleurs l'émergence d'un média qu'on aime bien ici, c'est OVNI, sur lequel d'ailleurs tu as plusieurs interviews à ton actif, où tu as bien parlé du revenu de base plusieurs fois et bien expliquer tout ceci sur donc OVNI, qu'on vous invite à aller voir, Yolan Bresson sur OVNI, d'excellents articles de vulgarisation. Dernier point peut-être pour finir, Yolan, c'est le sens, on en parlait tout à l'heure, et puis ça fait partie des médias aussi qui permettront qui permettent déjà de diffuser cette idée, malgré, disons, les médias subventionnés, hein, par notre argent.
Oui.
J'ai bien envie de dire malgré eux, parce que c'est la vérité. C'est revenudebase.info, je crois que tu es au courant de ce...
Ah oui, absolument. Donc nous avons une plateforme vient de se créer, revenudebase.info, et qui va servir justement de base de lancement, hein, au sens de la fusée spatiale, de base de lancement de tout le processus de diffusion d'information, de vie, de débat sur le revenu de base, et ensuite du recueil des signatures.
Oui, et notamment l'approche du revenu de base par tous les, je dirais, les paradigmes un peu, les points de vue différents qu'il aborde, qui sont nombreux. Je crois que les gens sont
absolument,
pas.
Oui, oui, ouais. C'est une sorte de rassemblement. Ce serait une sorte de rassemblement, de convergence,
hein, ouais.
de tous les regards, de tous les points de vue et de toutes les conséquences possibles. Un mouvement dans les deux sens, c'est-à-dire on converge vers la notion de revenu de base comme noyau, et puis de là aussi toutes les modifications sociétales que cela peut provoquer.
Super, d'accord. Je crois que c'est un très bon résumé de ce qu'on souhaite voir sur les sites qui en parlent en général, sur revenudebase.info quand il sera pleinement opérationnel. Je crois que c'est en cours de
finalisation. C'est en cours d'élaboration.
Oui, en cours d'élaboration.
Ça commence déjà. Hein.
Oui, ça commence déjà. Il y a déjà une page qui explique et il va y avoir tous les supporters qui pourront se regrouper notamment sur ce site. Bon, eh bien voilà, je crois qu'on arrive on a fait un beau tour d'horizon, hein. On a vu tous les problèmes liés à la dette et à la crise actuelle, les possibilités de sortie, monnaie unique, monnaie commune, monnaie complémentaire, on a vu toutes ces possibilités avec leurs avantages et leurs inconvénients, et bien sûr, le changement aussi plus profond, qui est le changement du design économique, fiscal et monétaire avec... cette apparition du revenu de base qui serait très certainement libérateur à plein d'égards. On espère te revoir très bientôt, Yolan, sur l'antenne de Monnaie Libre. Merci beaucoup. Et puis, au revoir. On va se quitter avec notre générique fétiche, Nighter No More Dreams.